J'ai longtemps cru que son démon intérieur était la bêtise. Et puis, je me suis demandé, et si la seule passion de sa vie avait été l'ennui? C'est Éric Marty qui, dans Le métier d'écrire, avoue que l'ennui dont Roland Barthes souffrait était pour lui une énigme. Pour moi, ce fut, et ça remonte au premier congrès de sémiologie de Milan, qui devait être en 1973, si je ne m'abuse. 74, hein, je dirais 13, parce que c'est ce qui... Bon, peu importe. J'étais pas née, mais j'y étais quand même. Donc, pour moi, donc, ce fut ce qui, dès ce moment-là, me lia à lui dans une complicité muette. Pas l'ennui métaphysique dont l'homme pascalien s'exempte par le divertissement, pas l'ennui conjoncturel, vous savez, cet ennui de situation que nous éprouvons tous dans certaines circonstances de la vie, que je ne préciserai pas. Non, l'ennui structurel. Existentiel, aurais-je envie de dire, si ce terme n'avait pas une connotation trop sartrienne. Cet ennui qui, selon Flaubert, un connaisseur lui aussi, et je cite Flaubert, « d'un être intelligent fait un fantôme qui pense ». Connaissez ces images de Roland Barthes, c'est pour ça que je n'apporte aucune image où on le voit un peu avachi dans ces situations où il est ennuyé. Enfant, je le cite, « enfant, je m'ennuyais souvent et beaucoup. Cela a commencé visiblement très tôt. Cela s'est continué toute ma vie par bouffer. » S'ennuyer dans l'enfance n'a rien d'exceptionnel, ça fait partie, je dirais même, de la formation de l'enfant, forme de désœuvrement qui le prépare, n'est-ce pas, une maturation. Mais il nous dit, cela s'est continué toute ma vie. C'est Michel Foucault qui dit que la folie est l'absence d'œuvre. Eh bien, l'ennui aussi peut-être. L'ennui à l'âge classique se disait du tourment de l'âme causé par l'absence ou la perte d'un objet aimé ou désiré. Cela se dit aujourd'hui de toute mélancolie vague, ainsi vont les mots. La vie de Roland Barthes pourrait se lire comme une déclinaison en sourdine du spectre sémantique de l'ennui. S'amusant à pasticher un passage du livre de Louis-Jean Calvet, Roland Barthes, un regard politique sur le cygne, Roland Barthes, dans un fragment inédit du lexique de l'auteur, s'amuse à esquisser la liste de quelques-uns de ses biographèmes. En quatrième place, entre « Barthes aime à fumer le cigare » et « Barthes produit avec passion des néologismes comme il ferait à la langue des enfants illégitimes » se trouve celui qui me retiendra ici, « Barthes n'écrit que sur commande ». Dernière petite parenthèse, on échoue toujours à parler de ce qu'on aime. Citation de Roland Barthes bien connue. Je crois que cela vaut pour les êtres. Certes, on peut parler d'eux, évoquer des souvenirs, apporter des traits, rappeler des habitudes, des plis, des conduites, des comportements, des manies, raconter des anecdotes, et quand ces êtres sont des artistes, des écrivains, des penseurs, y ajouter quelques jugements bienveillants, amicaux, tendres même. Mais dans aucune de ces paroles ne se dit l'essentiel. Ce qui fait que d'eux à nous, il y a eu amour, amitié, affection, ce qui d'eux à nous a fait lien. Et pour éviter l'échec à parler de ceux qu'on aime, peut-être faut-il accepter qu'entre dans cette parole, cette part d'autoprojection, je dis bien, c'est pour ça que j'ai appelé ça autoportrait en Roland Barthes, il faut accepter qu'entre dans cette parole que l'on tient sur eux, cette part d'autoprojection, seule me semble-t-il, capable de rendre le sujet aimé à sa vérité, ou plutôt à sa justesse pour nous. C'est ce que je voudrais ici faire au risque assumé de me dévoiler. Fin des précautions oratoires. Au sortir d'une table ronde sur Roland Barthes, organisée quelque temps après sa mort, et qui ne me laissait qu'avec la tristesse de le voir cette fois véritablement perdu, tant ce qui s'y était dit n'était pas ça, n'était pas lui, Je songeais au curieux destin, c'est de cela dont je veux parler, d'une écriture qui n'avait jamais su trouver sa nécessité que dans la commande, celle de l'article ou de la préface, celle du livre, celle de la conférence ou du cours. Je songeais donc à cette œuvre si, et c'est là le paradoxe, si fortement habitée par la personne de son auteur, par son intelligence, par sa sensualité, par son hédonisme discret, qui pourtant avait sans cesse eu besoin pour se réaliser d'une relance extérieure, la sollicitation amicale, la demande sociale, l'obligation institutionnelle. Et cela dès les premiers écrits publiés dans des revues d'étudiants, que ce soit la revue du Théâtre antique de la Sorbonne ou la petite revue du sanatorium où il se trouvait. Roland Barthes, donc, et c'est le petit biographème qu'il fabrique, Roland Barthes n'écrit que sur commande. Ce biographème, repris par Jeu, est très sérieusement assorti de la définition du concept. Un biographème est un trait de vie signifiant, ne fait pas partie des fragments publiés dans Roland Barthes par Roland Barthes, mais cet effacement ne l'efface pas. Roland Barthes n'écrit que sur commande. Et je m'interrogeais, de quelle signification ce trait était-il le nom ? Je songeais jusqu'à ce qu'un mot s'impose avec la force de l'évidence, quelque confus que fût encore le caractère heuristique de cette intuition, et vous allez voir, parce que ce nom est encore plus vague, ce nom c'était mélancolie. Roland Barthes lui préférait celui moins cliniquement marqué, d'ennui, qui revient souvent sous sa plume, et qui, dans sa traduction grecque, Akedia, l'acédie, ouvre son cours intitulé « Comment vivre ensemble ». Ben, tout de même, étrange commencement hein, pour un livre, au vu de l'intitulé, c'est pas de son cours, comment vivre ensemble, commence par Akedia. Même si l'ordre alphabétique l'appelle évidemment à la première place. Évidemment, acédie. Mais enfin, d'autres termes étaient possibles, entre autres, ennui. Akedia. Et, je cite Roland Barthes, état de dépression, vague à l'âme, lassitude, tristesse, ennui, découragement. J'aurais envie d'ajouter pour ma part perte de pulsion. Mélancolique, oui, Roland Barthes l'était, et tous ceux qui ont connu ces phases de silence au milieu des conversations les plus amicales, ces moments, et là j'insiste sur le thème, de désinvestissement au cours d'un dîner, d'une table ronde, ou de toute autre activité sociale attendue d'un intellectuel, ces moments où son regard semblait se vider, le savent. Tous ceux aussi qui, sans le connaître, ont pu voir l'accablement se lire sur son visage de chien battu dans l'album d'images du Roland Barthes par Roland Barthes. Mais en quoi une notion si vague, à force d'extension, pouvait-elle prétendre éclairer chez Roland Barthes ce qui m'intéressait, le paradoxe de la commande. Par paradoxe de la commande, j'entends la transformation de ce qu'il y a de plus contingent, la commande, la demande émanant d'autrui, en ce qu'il y a, là j'insiste aussi pour pas qu'il y ait de malentendus entre nous, en ce qu'il y a de plus nécessaire pour tout écrivain, et surtout pour Roland Barthes, qui, après en avoir fait presque une mystique au temps de son compagnonnage avec les avant-gardes, l'avait érigé en règle de vie l'écriture, car l'écriture était sa nécessité. Vous voyez le paradoxe. Le problème, je me suis rendu compte que le problème en ces termes était mal posé. Pourtant, l'idée que la résolution de ce paradoxe dont l'écriture était le lieu devait être cherchée dans la forme de mélancolie dont souffrait Roland Barthes se faisait pour moi insistante. Mais ne fallait-il pas poser autrement la question et se demander si ce n'était pas l'étrange retournement de la commande extérieure en nécessité intérieure, éthique et esthétique, qui tout à la fois éclairait un pan obscur de la mélancolie dont Roland Barthes était affecté, peut-être faut-il mieux lui donner le nom qu'il emploie, ou le mot qu'il emploie, l'ennui, et expliquait la spécificité de son œuvre et de son mode d'écriture. J'entends par là le côté sprinteur et non coureur de fond. L'idée entrevue l'aiguillonne, son exposition, sa démonstration, son exemplification, l'ennui. Il s'esquive par un désinvolte. Il est possible, par exemple, je prends dès le degré zéro de l'écriture, de faire une histoire de la littérature qui serait l'histoire des signes de la littérature. Vous avez de très nombreux exemples de cela. Il est possible, d'où rien ne s'ensuit. Ou bien par un usage du conditionnel. On pourrait. Autre façon de laisser l'idée à son miroitement séduisant. Ce dilatoire, et il faut bien le comprendre, n'est chez lui ni tactique. Il ne s'agit pas, comme chez certains tacticiens, de laisser passer la nuit pour ne pas prendre trop hâtivement une décision qu'on regretterait plus tard. Non, ce dilatoire n'est ni tactique, ni véritablement névrotique. Alors quoi? Peur que l'hypothèse ne tienne pas la route? Oui, possible. Plus sûrement, je crois, ennui à l'accompagner longuement. D'où la préférence accordée à la forme brève, le fragment. Son tout premier texte, ou presque, 1942, est déjà constitué de fragments. La préférence accordée donc au fragment, à l'écriture discontinue, à la phrase, à la rédaction des débuts. Les justifications idéologiques par la haine de l'arrogance du dernier mot, et Dieu sait si on en parle, si on commente cela, donc les justifications idéologiques par la haine de l'arrogance du dernier mot et de ce qu'il entre de volonté et de maîtrise dans le dissertatif ne sont, à mes yeux, que des écrans pour cacher que le plaisir est dans les départs plus que dans les arrivées, dans la fulgurance des départs et non dans l'endurance fastidieuse que supposent les arrivées, dans les amorces de la pensée et non dans son creusement. Le trait est la figure du refus de l'approfondissement. Je cite Roland Barthes. Aimant à trouver, à écrire des débuts, il tente à multiplier ce plaisir. Voilà pourquoi il écrit des fragments. Autant de fragments, autant de débuts, autant de plaisir. Fin de citation. Une phrase se répète de cours en cours. Nous ouvrons seulement un dossier. Je ne fais qu'entrouvrir un dossier. D'ailleurs, le cours lui plaît comme ouverture, l'ennui comme durée. Je cite, « Il faut tenir 13 semaines ». Et on entend dans cette phrase, « Il faut tenir 13 semaines », on entend dans cette phrase comme un soupir que traduisent graphiquement les points de suspension. « Il faut tenir 13 semaines, point de suspension », l'accablement. Mais derrière l'alibi du plaisir pris à l'écriture des débuts, se cache la vérité de l'essoufflement, d'une nécessité qui ne trouve pas en elle-même sa propre nécessité. S'il ne tenait pas de discours, c'était par ennui. S'il ne se pliait pas à l'usage mondain du bavardage, c'était encore par ennui. S'il refusait toute position de maîtrise dans son enseignement, refus si souvent mis au compte de sa délicatesse, réelle d'ailleurs, de sa politesse intellectuelle, de son hospitalité à la parole de l'autre, tout cela était réel, c'était toujours par ennui. Sa courtoisie, son amabilité, sa disponibilité, beaucoup s'y trompèrent, pour ne pas avoir vu qu'elle n'était que le visage que par élégance il voulait donner au monde et qui cachait la détresse dans laquelle le mettait son indifférence. Il faut prendre le terme au sens le plus fort du terme. Parce que par indifférence, je n'entends pas l'absence de sensibilité, Dieu sait s'il en avait, mais sa difficulté à être concerné, et Dieu sait s'il en souffrait. Cette indifférence dont il souffrait était chez lui comme une panne du concernement, dans toutes, je dis bien une panne du concernement, dans toutes les situations où l'intelligence pure n'était pas sollicitée. Combien de fois s'est-il obligé pour, comme il l'a avoué, et je le cite, prendre la parole pour ne pas laisser croire, voir qu'il s'ennuyait. À cet exercice de dissimulation, il n'était pas très bon. On comprend alors que, l'obligeant à cette épreuve, le monde, comme il le dit, le fatiguait. Surtout que le monde le renvoyait au sentiment douloureux de cet ennui qu'il en excluait. Je le cite, « Je suis toujours abasourdi par le caractère infatigable des autres. » Fin de citation. Faire un cours sur le neutre par manière d'exorcisme? Pas sûr. Il vivait la socialité imposée comme les situations de parole institutionnalisées, colloques, conférences, ou la fête et son obligation de gaieté, car il y allait, hein, ou la fête et son obligation de gaieté comme un exil intérieur. L'ennui, si bien défini par Gide, je le cite, comme un état flasque de l'âme, se traduisait alors chez lui par une sorte de tassement du corps. Qui a dit de l'ennui cette perte de pulsion? Pour moi, l'ennui, c'est ça, cette perte de pulsion qu'il se peint sur le visage, il se peint sur le corps. Deuxième et dernière partie. Et si l'un des noms de l'homme de la mélancolie ou de l'ennui de type bartésien était « Je suis celui qui répond ».« Je suis celui qui répond à la demande ». C'est de cela dont je vais vous parler pour terminer. Roland Barthes s'étonnerait peut-être d'une telle assignation, lui qui, devenu professeur au Collège de France, se plaignait d'être accablé de demandes, lettres, coups de téléphone, offres diverses, et qui énumérait les manœuvres dilatoires qu'il employait pour s'y soustraire, tout en affirmant qu'il fallait plus d'énergie pour dire non que pour écrire le texte demandé. Ça, c'est vrai, pour tous. Mais ce n'est pas de ces menus harcèlements inséparables d'une position mondaine et académique qu'il s'agit ici, vous le comprenez bien, mais de cette forme de demande le plus souvent éditoriale quand elle s'adresse à un intellectuel et à un écrivain qu'est la commande. De cette demande, commande ou demande, qui le faisait écrire. Pas la demande qui l'accable et ajoute à sa fatigue, mais celle qui fournit un objet à sa seule nécessité ou exigence intérieure, j'insiste beaucoup, l'écriture. Fournir un objet, ne pas faire de l'écrire. C'est justement ce verbe intransitif dont il a fait état pour accompagner sans y croire les avant-gardes. Donc la demande qui fournit à sa seule nécessité ou exigence intérieure, l'écriture. D'où cet aveu qui est de lui, forme de paradoxe. Mais si jamais la demande. Donc, et si le nom de la mélancolie barthésienne était finalement « Je suis celui qui répond à la demande ». C'était pour moi moins une idée, pas même une intuition. Il fallait que la chose prenne corps. Et dans les brumes caractéristiques de cet état intermédiaire entre la réflexion et la rêverie, commençait à se dessiner en moi à grands traits, en guise d'analyse, une sorte de scénario type. Un cas. Vous savez, comme quand on fait, comme en médecine, hein, on a des cas, hein, pour essayer de l'ouvrir. Un cas. Un cas auquel, pour le comprendre, parce que pour comprendre une maladie, il faut le rapporter à des cas. Bien évidemment, c'est un exercice médical que le XIXe siècle a pratiqué excellemment. Un cas auquel, pour le comprendre, rapporter celui de Roland Barthes. Prendre, comparer, pour comprendre. La scène, de mon cas, se passe dans un intérieur londonien à la fin du siècle dernier. Le logis est confortable, douillet même, comme il sied à deux vieux garçons, visiblement soucieux de leur bien-être. L'un des deux personnages, grand, sec, de complexion frileuse, comme l'atteste le plaid dans lequel il s'est enroulé, est vautré sur un divan de style Chippendale. Il tire négligemment sur une bouffarde paresseuse. L'autre, dont les propos trahissent un médecin formé à l'école hygiéniste, a cette rondeur que l'on associe généralement à une certaine jovialité. Il exhorte son compagnon à se secouer et à sortir de l'apathie dans laquelle il semble se complaire. Rien n'y fait. Les admonestions amicales n'arrachent ni un mot ni un geste d'humeur à celui que, pour un peu, l'on croirait tomber dans un état voisin de la catatonie. À ces symptômes, Roland Barthes, un expert en la matière, aurait reconnu la marinade. Vous savez, car la marinade, cette forme de prostration symbolisée par le divan sur lequel Flaubert allait se jeter quand il était en panne, il la connaît bien, Roland Barthes. Je cite. Je pratique moi aussi, hélas, la marinade. Mais sa panne n'est pas celle enragée de Flaubert butant sur un obstacle. Sans Flaubert enragé, non. Pour Barthes, c'est une déperdition d'énergie, une faiblesse d'intensité, une déflation du désir. D'où ce conseil donné à l'aspirant écrivain, je cite Roland Barthes, toujours avoir un divan dans son bureau. Roland Barthes en avait un. Pour le rituel de la sieste, hérité peut-être de la règle de vie du sanatorium. Mais pour ce rite, il préférait le lit de la chambre attenante. Pour la marinade, sans doute. La marinade qu'il tâchait de combattre par la discipline. Et là, on retrouve son éthique protestante du travail. Il essayait de la combattre par la discipline, par l'organisation obsessionnelle de l'espace dédié à l'écriture. Les amis proches qui sont allés à Urte ont tous été frappés, troublés même, de constater que la disposition des meubles et des objets de sa pièce de travail était la même que celle de son bureau de la rue Servan-Denis. Je n'ai connu que ce dernier, le bureau de la rue Servan-Denis, mais Roland Barthes a fait état de cette obsession dans son cours sur le neutre. Je cite « Ma résistance à avoir plusieurs lieux, ville, campagne, mon envie de la permanence de l'habitation unique comme repos et fécondité du travail, mon insistance à reproduire partout la même structure d'espace, la même proximie. Je m'en suis, dit-il, expliqué plusieurs fois. » Fin de citation. Mais revenons dans notre salon londonien fin de siècle. Le temps s'y est comme immobilisé. Puis, brusque changement. Si on le filmait, je dirais la caméra quitte la pièce trop close et se risque au dehors. Elle filme en gros plan, comme ça que moi je l'imagine, un doigt qui actionne nerveusement la sonnette de la porte qui donne sur la rue. Ce doigt, c'est celui du solliciteur, autre nom dans cette histoire du demandeur ou de celui qui passe commande. Il vient soumettre à la légendaire sagacité du maître des lieux un problème, une énigme, jusque-là insoluble. Et pour le solliciteur, il y va de sa vie ou de celle d'un proche, ce qui explique sa surexcitation. Aussitôt, comme piqué par quelque puissant aiguillon, notre mélancolique, en qui, et vous l'aurez reconnu, l'infatigable et génial déchiffreur d'énigmes Sherlock Holmes, se redresse. L'œil allumé, fiévreux même, tous ses sens sont en alerte. Son intelligence, tout à l'heure assoupie, fulgure. De l'affaire de l'autre, il fait visiblement son affaire et n'aura dès lors de cesse que lorsqu'il aura trouvé la solution, la requête le requiert entièrement. Durant les quelques jours que durera l'enquête, il ne prendra, s'il le faut, aucun repos, faisant montre d'une énergie qui laissera le bon docteur Watson sur le flanc. Et si d'aventure son corps ou son esprit venait à flancher, vous le savez, une prise de cocaïne, ce qui n'était pas le cas de Barthes, suffirait à le faire repartir. Mais cette tension cérébrale extrême ne saurait excéder quelques jours, deux ou trois généralement. À la différence évidemment du récit qui la raconte, l'enquête est une forme brève, comme écriture pratiquée par Roland Barthes. Mélancolique, Sherlock Holmes ? Eh oui. Mais de cette forme de mélancolie, pour ça que j'en ai fait le cas, qu'elle comparait, symptôme de Roland Barthes, mais de cette forme de mélancolie particulière, qu'en empruntant à Roland Barthes le nom, mais nullement la description du symptôme, j'appellerai le syndrome de la frite. Et vous allez voir que je trahis complètement ce qu'il nous dit de la frite. Et vous allez voir que cette petite trahison a sa raison. On a évoqué la frite l'autre jour. Comment s'interroge Roland Barthes, dont on connaît la souffrance à être nommé, assigné, figé dans une représentation de lui-même, comment donc, je cite, « une image de moi prend-elle au point que j'en sois blessé ?» Je cite toujours Roland Barthes. Voici une nouvelle métaphore. Dans la poêle, l'huile est étalée, plane, lisse, insonore, à peine quelques vapeurs, sorte de materia prima. Jetez-y un bout de pomme de terre, c'est comme un appât lancé à des bêtes qui dormaient d'un œil, guettaient, toutes se précipitent, entourent, attaquent en bruissant, c'est un banquet vorace, la parcelle de pomme de terre est cernée, non détruite mais durcie, rissolée, caramélisée, cela devient un objet, une frites. Et on sait que Roland Barthes avait peur, justement, qu'on le transforme en frites, hein, que c'est tout, hein, ceux qui étaient autour de lui par leur transforme en frites, en donnant de lui une image, en le nommant, en l'adjectivant, etc. Ce qui s'énonce ici, non sans humour, dans ce petit drame de la pomme de terre jetée dans un bain d'huile bouillante, comme donnée en pâture à des monstres avides et sournois, c'est bien évidemment, c'est comme ça que Roland Barthes veut nous le faire comprendre, la phobie de Roland pour toutes les formes d'adjectivation dans lesquelles les autres vous enferment, qui tout à la fois dévorent et crament le moi. Cela explique peut-être qu'il ait été aveugle à une autre lecture possible de l'aventure de cette pomme de terre. Une lecture plus triviale, car tirée de l'observation et non hallucinée par le fantasme de Barthes d'être cramé par l'adjectivation. Donc, l'interprétation aura véritablement des choses. Donc, pas hallucinée par le fantasme. Que montre en effet l'expérience ? Elle montre que tout bâtonnet de pommes de terre inerte, plongé dans l'huile bouillante, se met à s'agiter, à frétiller, à grésiller, mais que sorti de ce bain qui l'excite, il se mue bien vite en une chose molle. On sait très bien qu'il ne faut pas laisser longtemps les frites avant de les manger, parce que il y a une perte de ramollissement évident. Donc, vous voyez bien que l'aventure de la frite, si on n'est pas halluciné par le fantasme de l'imago, comme Roland Barthes, l'aventure de la frite qui passe de l'état d'apathie, la pomme de terre, à celui de grande excitation pour finir dans l'avachissement, n'est pas sans présenter quelques similitudes avec le cas de Sherlock Holmes, dont j'ai fait la figure paradigmatique de la forme barthésienne de la mélancolie, ou plutôt de l'ennui. D'ailleurs, on dit avoir la frite, etc. Et au contraire, on parle de couch potato, quand justement, elle n'a pas été frite. Bon, soyons sérieux. Et je m'achemine vers ma conclusion. Tout ceci doit être considéré comme dit par un personnage de roman. C'est la demande adressée par Barthes au lecteur de Roland Barthes par Roland Barthes. Eh bien, le pastichant, je vous demanderai à mon tour de considérer que tout ce qui suit est, comme je vous l'ai dit, la construction d'un cas. Faudrait-il mieux dire, pour éviter de donner à cette construction imaginaire un caractère abusivement clinique, un type, dont mon Roland Barthes est le modèle fictionnalisé. Alors, que nous apprend le syndrome de la frite, lu à ma manière, et sorti de l'hallucination fantasmatique de Roland Barthes? Que le mélancolique de type barthésien ne trouve pas en lui-même le motif et du même coup le moteur de son action, en l'occurrence de son écriture. Que ce dont il souffre, c'est d'une faiblesse d'intensité qui ferait passer du projet entrevu et noté dans la fièvre de l'excitation intellectuelle à sa réalisation. Car des projets, il n'en manque pas. Il en a trop même. Comme Roland Barthes, qui en a plusieurs fois dressé la liste non exhaustive, vous savez, il y a une liste non exhaustive de ses projets de livres caressés ou annoncés. Et il y a un fragment qui porte ce titre, il y a toute la liste, etc. Que nous apprend donc toujours ce syndrome de la frite lu comme je viens de le faire? Il nous apprend que ce qui lui manque, c'est une énergie intérieure soutenue, je dis bien soutenue, qui ferait passer de la notation brillante au livre, de la note au roman. Le projet est bien là, mais comme idée séduisante, pas comme force projetante, pas comme poussée intérieure qui projetterait le projet loin en avant, pas comme tension qui l'accompagnerait dans ses développements, d'où les retardements, les manœuvres dilatoires, les remises à plus tard. Le fragment du même nom est un petit chef-d'œuvre tout à la fois d'auto-analyse et d'esquive. Il a cette manie, je cite, de donner des introductions, des esquisses, des éléments, en remettant toujours à plus tard le vrai, et c'est entre guillemets, livre. Cette manie a un nom rhétorique, c'est la prolepse. Si, les laissant dans les limbes de l'idée, elle a aussi, je dirais, un nom en psychologie comportementale, lui prend un nom rhétorique, la prolepse, mais en psychologie comportementale, ça s'appelle la procrastination. Mais elle, si, laissant dans les limbes de l'idée, il ne mène pas à bien certains projets annoncés, c'est, dit-il, parce que ça l'ennuie. Ne serait-ce pas plutôt l'inverse? Parce que l'ennui dont il souffre l'en empêche. Pas de nécessité intérieure. Ah, vous allez me dire, hein, comment, quoi? Pas de nécessité intérieure, sauf une, la plus importante. Celle d'écrire, qui deviendrait, comme je vous l'ai dit, presque une activité intransitive, si la commande ne venait lui donner un objet, un complément d'objet. Pas d'appel du dedans fort qui tienne et maintienne le projet dans la durée. À quoi l'attribuer? Sans doute à une absence de projection de soi, due à un manque d'image, ou plutôt d'imaginaire de soi. Le mélancolique de type barthésien ne s'imagine pas. Aussi a-t-il toujours besoin, pour être mis en mouvement, d'un appel extérieur. C'est la fonction de la demande, de la commande. Elle est d'autant plus nécessaire qu'elle vient pallier en lui les déficiences de la nécessité. Ce qu'il y a de stimulant dans la demande de l'autre, c'est bien sûr l'élection. Bien sûr, le fait d'avoir été choisi, le fait que l'appel s'adresse à lui, lui qui se vit exilé des jeux du monde, fût-il intellectuel. Mais c'est beaucoup plus encore l'offrande que l'autre vous fait d'un objet mobilisateur, d'un objet qui, en le mobilisant, le sort pour un temps de cet état de démobilisation qu'il appelle l'ennui. Passez-lui commande, à lui. Que la photographie, c'était d'abord une commande sur le cinéma, hein, mais il l'a détournée. Passez-lui commande, à lui, que de la photographie, il connaît quasiment, j'exagère à peine, car il comptait dans son entourage proche, on le sait, Daniel Boudinet, Hervé Guibert, etc., mais qu'il connaissait à peine la photographie. Hein. Il ne connaissait de la photographie, en dehors des amis qui lui étaient proches et qui étaient photographes, que celle qui avaient paru dans les 8 numéros du Nouvel Observateur spécial photo, et pour lesquels d'ailleurs il a écrit quelques légendes. Donc, passez-lui commande d'un travail sur la photographie, et il va partir, seul et sans bagage. D'ailleurs, très intéressant que, et tu l'as montré, enfin, tu as pris le tout début de la chambre claire, c'est un aveu de solitude. Hein, impossibilité à faire partager sa solitude intellectuelle. La vie est ainsi faite à coup de petite solitude intellectuelle. Il va partir seul et sans bagages, ou plutôt les ayant tous laissés au vestiaire, la tabula rasa, à la manière de Descartes, qui est le début de la chambre claire, dans une aventure ontologique des plus originales. Et d'ailleurs, mais j'y reviendrai, il en fera autre chose, passez-lui par jeu et par boutade, comme le fit Denis Roche, directeur de la collection. Commande Roland Barthes par Roland Barthes, il en résultera l'une des plus justes, au sens de qui rend justice, une des plus justes autobiographies intellectuelles. Vertu du fragment qui laisse à leur lumière les scintillements et les flashs de la pensée en action. Demandez-lui d'écrire sur Cy Twombly, dont il ne sait rien avant cette demande, car l'art contemporain, à l'époque, n'était vraiment pas son fort. Et vous aurez le texte le plus juste sur cet artiste difficile. Le plus juste, c'est-à-dire qui rencontre et qui rend compte au plus juste du travail de Cy Twombly. Jetez-lui un os intellectuel à ronger. Et sortant momentanément de son ennui, il bande son intelligence, comme le fait Sherlock Holmes lorsqu'on lui soumet une énigme à résoudre. Et je cite ici Sherlock Holmes, qui dit « Montrez-moi, j'avais plein de citations de Sherlock Holmes, j'abrège, « Montrez-moi quoi désirer, montrez-moi quoi désirer, c'est ainsi que je fonctionne. » Et il ajoute que nous fonctionnons tous. Tous, je ne sais. Mais au lieu de dire « montrez-moi quoi désirer », le mélancolique de type barthésien dirait plutôt « proposer quelque chose à mon désir d'écriture et de sens, et à mon désir d'intellection, car c'est là le site de mon affectivité. » Le rôle de la demande faite par l'autre et d'être pourvoyeuse d'objets sur lesquels exercer son désir, qui est chez lui désir d'intellection. C'est pourquoi il a tant besoin de ce solliciteur, en soi indifférent, tout comme sa demande est interchangeable, dans les limites, bien sûr, des intérêts intellectuels qui sont les liens. Alors ça peut être les objets quotidiens d'une époque, ses usages, ses croyances, la peinture flamande, une nouvelle de Balzac... Une nouvelle de Balzac, au préalable couchée sur le divan lacanien, hein, dans les cahiers pour l'analyse et relancé par lui dans SZ. Il ne faut pas se laisser abuser par le premier réflexe de ce mélancolique qui ébauche un geste de refus pour chasser l'important qui vient sonner à sa porte. S'il ouvre, croit-il, en toute bonne mauvaise foi, c'est parce qu'il ne sait pas dire non, et il s'en voudrait presque. Mais la vérité est qu'il ouvre parce qu'il a besoin de ce bain d'huile bouillante dans lequel va le plonger la demande de l'autre. Il a besoin de s'y sentir frétillé. Et, je le cite toujours, si j'aimais la demande. Mais cet amour avoué par provocation, qui le fait un temps sortir de sa mélancolie, l'y enferme encore plus sûrement, en lui faisant faire retour au lieu de sa souffrance, son indifférence. Ce que l'autre, par la demande, par la commande, montre à son désir, le meut intellectuellement, mais ne l'émeut pas affectivement. C'est pour ça que c'est très intéressant qu'il ait voulu terminer justement sur quelque chose qui était de l'ordre de la pitié ou de l'empathie. Pourtant, il y a du pathétique chez Roland Barthes, indiscutablement. Mais je veux dire, ça ne l'émeut pas affectivement, d'où cette sourde inquiétude qui a traversé toute sa vie d'être dans l'imposture. Non, parce qu'il n'a pas les bons diplômes, cela est vrai. Non, parce qu'il n'aurait pas encore lu Diderot, c'est le deuxième biographème de la liste parodique établie par Roland Barthes dans le lexique de l'auteur, mais parce qu'il sait très bien qu'il tord le cou à la demande qui lui a été faite. Qu'il soit bien clair que je ne donne à cette torsion aucun nom clinique. Je ne commettrai pas cette imprudence, même s'il y a tout à la fois une part de jouissance perverse et une part de souffrance morale, toujours l'éthique protestante. Je termine là-dessus. Pourquoi imposture ? Ne laisse-t-il pas croire au demandeur que l'objet de sa demande rencontre son propre désir à lui, Roland Barthes, entretenant par là même l'ambiguïté de la demande dont on sait qu'elle est toujours d'amour, alors qu'il l'utilise à seule fin de nourrir son intelligence. Il l'utilise comme une sorte de carburant qui le fait carburer, tout comme Sherlock Holmes. Je dirais que la comparaison s'arrête là, car à la différence de Sherlock Holmes, il n'a pas besoin d'autres drogues, même si le rapport de H, vous savez, dans le cours, il s'intéresse beaucoup au hashish et le rapport du hashish à l'écriture, même si le rapport de H à l'écriture l'obsède dans la préparation du roman. Vous voyez donc le malentendu final se dessine. Au fond, pourquoi imposture ? Parce que le demandeur se sent, ou peut-être qu'il ne le sent pas, mais est toujours quelque peu floué, car s'il lui a été bien répondu, c'est à côté de sa demande. Mais qu'importe cet à côté ? Qu'importe que cet à côté transforme la platitude de la demande en une fête de l'intelligence. Et c'est cela qui lui a été offert. On ne lui a pas donné ce qu'il a demandé, on lui a offert cette fête de l'intelligence. Un des noms du mélancolique de type barthésien pourrait être donc « Je suis celui qui déçoit ». D'où la peur de la déception, qui déçoit mais dans un feu d'artifice, qui est quand même une forme de déception extraordinaire. Peur de la déception, comme l'avoue le final du cours sur la préparation du roman. Il n'y aura pas de roman. Car si le cours, fut-il sur la préparation du roman, relève de la commande, car le cours est une commande institutionnelle, le roman, lui, est un écrit dont on ne peut jamais passer commande. On comprend alors qu'un sentiment de culpabilité, et on sait que la théorisation de la déceptivité du texte a été bien élaborée par Roland Barthes, donc un sentiment de culpabilité, bien protestant, ne le quitte jamais, et que sa mélancolie trouve, encore une fois, matière et occasion de s'y réalimenter perpétuellement. Merci.